On est par téléphone avec Philippe Vanesson du blog Passeur d'Hospitalité, actuellement à Calais. Alors Philippe Vanesson, on vous a régulièrement au téléphone pour un point sur la situation des migrants, des différentes jungles, des différents campements de migrants à Calais et ailleurs. Grosse actualité bien sûr cette semaine avec des destructions prévues dans différents camps de la région, des destructions de camps organisées, décidées par la préfecture du Pas-de-Calais. Comment la préfecture justifie-t-elle ces destructions?
C'est un peu compliqué en fait. J'ai l'impression qu'elle les justifie pas trop. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a effectivement une situation, on a des bidonvilles qui sont installés. Il y a une politique qui semble un peu incohérente, c'est-à-dire à la fois on veut moins de gens à Calais et en même temps on contingente le nombre de personnes à Grande-Synthe, où Médecins Sans Frontières va construire un camp de réfugiés. Donc ça, en termes de conditions de vie, c'est quelque chose d'absolument nécessaire, mais en ayant un nombre de places fixes, donc sans anticipation de ce qui va se passer à partir du printemps, puisque c'est un peu un classique en fait. Il y a moins de gens qui entrent en Europe en hiver, notamment parce que la Méditerranée est beaucoup moins praticable, que la traversée des Balkans est aussi difficile, et que maintenant il y a un filtrage en fait dans les Balkans, c'est-à-dire les Afghans, Syriens et Irakiens sont enregistrés et peuvent traverser jusqu'à l'espace Schengen. Les autres personnes sont bloquées, donc sont dans une situation beaucoup plus compliquée, mais ces autres personnes ne vont pas rester en Grèce ad vitam aeternam sans possibilité d'accueil. Donc ces gens-là, on va les voir arriver dès qu'ils le pourront. Donc tout le monde prédit en fait qu'il y a une reprise de l'arrivée d'exilés en Europe à partir du printemps. Et effectivement, il y a une pression qui s'accroît. Alors on le trouve du côté belge et on le trouve du côté français. Et quand la pression s'accroît à Calais, quand on détruit le bidonville, ce qui semble être le projet, en fait les gens ils disparaissent pas. Ils vont éventuellement ailleurs où ils se cachent plus, etc. Donc pour l'instant c'est quelque chose qui semble assez flou quant aux motivations, à part produire un espèce de résultat. Il faut qu'on puisse dire qu'il y a moins de migrants, donc on détruit ce qui est visible en fait. Et ce qui est visible actuellement, c'est le bidonville qui est juste au pied de l'autoroute et qui est un focus médiatique. Quand les gens sont éparpillés, effectivement, ils sont moins visibles. Donc on a eu une communication de la préfecture sur des chiffres assez fantaisistes, mais en baisse constante. C'est-à-dire la préfecture veut montrer que sa politique et une réussite, et donc qu'il y a de moins en moins de monde, donc elle produit les chiffres qui correspondent à ce qu'elle veut communiquer. Ceci dit, il y a une réalité qui est, un relatif tassement du nombre de personnes présentes à Calais, mais c'est pas dans les proportions données par les pouvoirs publics. Et puis, effectivement, on fait disparaître le truc visible. Sauf que ça veut dire que une partie des gens, effectivement, vont aller dans les infrastructures mises en place par l'État, soit sur place à Calais avec le nouveau camp de containers, soit dans les centres de répit un peu partout en France. Une partie des gens vont rester à Calais et vont donc se disperser à nouveau dans les buissons, les bâtiments vides, sous les ponts, etc. Et puis qu'il y a un nombre plus important de personnes qui vont arriver à partir du printemps et qui vont se retrouver dans une situation extrêmement précaire, parce que les conditions de vie sont effectivement mauvaises dans le bidonville. Ceci dit, il y a eu un énorme investissement associatif, à la fois pour les rendre un peu moins mauvaises en construisant des cabanes, etc., mais aussi toute une solidarité qui s'est tissée avec la construction de lieux collectifs qui peuvent être des cuisines collectives, qui peuvent être une bibliothèque, un théâtre, des écoles, etc. Et puis des bénévoles en fait qui passent énormément de temps, qui vivent parfois sur le bidonville. Donc c'est un lieu qui est ouvert et où il y a de la relation humaine, de la solidarité qui se tisse. Et l'impression qu'on a, c'est aussi qu'il y a une volonté des pouvoirs publics, et ça on l'a vu avec les contrôles policiers aux accès du bidonville, les entraves mises à l'accès des véhicules, les procès-verbaux à répétition contre les véhicules des bénévoles, etc. Et puis maintenant, avec le fait de cantonner les gens, dans des lieux qui sont plus accessibles aux bénévoles, une vraie volonté de rompre ces solidarités et de les rendre plus difficiles, parce que si on se retrouve à nouveau avec des gens qui sont dispersés un peu partout, qui sont chassés de matin en matin par la police, parce qu'il y a quand même des effectifs policiers conséquents sur Calais, cette solidarité, ben oui, concrètement, elle deviendra beaucoup plus difficile.
Pour bien comprendre, hein, pour bien faire comprendre aussi aux auditeurs, comment ça se passe une destruction de camp? La police arrive et puis il y a des bulldozers qui détruisent les tentes, les choses comme ça? Et où en est-on aujourd'hui? Là, on est mercredi matin, en fin de matinée. Est-ce que ça a déjà commencé ou est-ce que c'est prévu pour la fin de semaine?
Alors, la préfète a donné un ultimatum d'une semaine aux gens pour déménager. Donc on pense qu'il va y avoir un arrêté d'expulsion à la fin de la semaine. Après cet arrêté d'expulsion, on pense aussi qu'il va prévoir un délai. Et effectivement, au bout du délai, la logique, c'est que la police arrive avec les bulldozers juste derrière. Il est probable que les gens vont être emmenés dans des bus un peu partout. Ceci dit, les gens dont le projet est d'aller au Royaume-Uni vont pas rester, comme ça s'est vu lors de plein de destructions de campements à Calais, comme ça s'est vu lors de la destruction du campement de Tétéguem près de Dunkerque à l'automne. Bah, les gens, on les emmène quelque part, ça correspond pas à leur projet, donc en 24 ou 48 heures, les lieux d'hébergement sont quasiment vides, parce que les gens reviennent sur le littoral. Donc le schéma, c'est probablement celui-là, avec peut-être des arrestations et des placements en rétention à la clé, si vraiment les autorités veulent mettre une pression forte.
Alors les destructions concernent le camp de Calais, mais aussi d'autres camps dans la région?
Alors effectivement, il y a le sous-préfet de Béthune a annoncé qu'il prévoyait la destruction d'un petit campement en fait qui est relativement récent, qui date des débuts de l'augmentation du nombre de personnes bloquées à la frontière britannique en 2014 à Choc. Donc c'est pas un campement historique entre guillemets de ceux qui sont constitués après la fermeture de Sangatte.
Choc, c'est où Choc?
Choc, c'est tout près de Béthune en fait, c'est près d'une aire d'autoroute aussi. Un peu la logique, c'est que les gens essayent de passer par les camions, en montant dans les camions. Donc ça peut être directement à Calais, mais ça peut être en amont sur les autoroutes. C'est une situation qu'on retrouve en Belgique et qu'on retrouve en France près des aires d'autoroute qui conduisent au littoral. Et après, il y a des campements plus anciens qui sont remis en cause. Nord-en-Fonte, par exemple, parce que le maire a changé aux dernières élections municipales et qu'on a un maire beaucoup plus hostile. Donc on est un peu dans une espèce d'incertitude et de précarité par rapport à plein de lieux.
Vanesson, vous avez parlé des solidarités construites entre les exilés et les personnes du secteur associatif sur le camp. Il y a notamment cette école, hein, une école laïque du chemin des dunes qui a été construite. C'est à l'initiative, il me semble, d'un exilé nigérian, hein, si je ne dis pas de bêtises. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette école et puis nous parler des menaces qui pèsent sur l'école?
En fait, il y a déjà eu des destructions partielles du bidonville, et la dernière, c'était pour créer ce que les autorités ont qualifié de « no man's land », théoriquement de 100 mètres, mais par endroits plus larges, le long de la rocade d'accès au port et le long de l'une des rues qui longe le bidonville. Et à l'époque, les autorités avaient promis qu'elles ne toucheraient pas aux deux lieux de culte qui existaient dans ce périmètre, c'est-à-dire là une mosquée et une église, et à l'école. De fait, la mosquée et l'église ont été rasées, et l'école est restée juste à la frontière. C'est-à-dire la butte de terre qui a été faite tout le long du No Man's Land passe juste le long de l'école, donc elle est aux premières loges pour être détruite. Après, en ce moment, les autorités font un peu un travail de déminage en assurant les uns, aux uns et aux autres que ça va bien se passer, qu'il n'y aura pas de problème, etc. Donc pour l'instant, ils disent qu'ils détruiront pas l'école, sauf que s'ils détruisent la moitié du bidonville qui est autour, ça veut dire que concrètement, les personnes qui viennent à cette école pour apprendre le français seront plus là. Ou seront sans abri, etc. Donc, et puis cette école, c'est pas simplement un lieu où on apprend, c'est aussi un lieu de vie sociale, c'est aussi quelque chose qui participe à une dynamique plus globale. Dans l'enceinte de l'école, il y a la clinique de gynécologie sans frontières, à proximité, il y a une cuisine collective, il y a un lieu de distribution de vêtements. Il y a des espaces collectifs comme ça qui existent partout autour, et c'est tout un tissu en fait qui existe, c'est pas simplement les bâtiments de l'école proprement dite. Et si les gens sont dispersés d'ailleurs un peu partout dans l'agglomération parce que le bidonville est détruit, on pourra se poser la question de la pertinence d'avoir une école à cet endroit-là plutôt qu'une école itinérante ou située ailleurs ou peut-être en centre-ville, quoi, si on veut continuer à toucher les exilés. Donc il y a un peu cette question-là. Il y a plusieurs écoles dans le bidonville, il n'y a pas seulement celle-là, mais c'est vrai que c'est celle qui a attiré le plus l'attention des médias et qui s'est le plus développée en termes d'activité, de nombre de bénévoles impliqués et qui existe depuis pratiquement la création du bidonville.
C'est une école laïque où les exilés, alors adultes, enfants, apprennent notamment des langues, français, anglais, j'imagine.
Oui, alors il y a des classes adultes et il y a des classes enfants, en fait, qui correspondent à des pédagogies différentes aussi. Au départ, c'était des classes adultes, effectivement. Les gens qui venaient étaient généralement des demandeurs d'asile, mais il y a beaucoup d'enfants sur le bidonville. Et il y a une obligation de scolarité de l'État vis-à-vis des enfants de 6 à 16 ans. Donc en fait, cette école, elle se substitue à ce que l'État ne fait pas et aux obligations qui ne remplit pas. Et ça a été un choix vraiment d'aller vers les familles pour que les enfants soient, je ne sais pas si on peut dire scolarisés parce qu'on n'est pas dans un cadre complètement scolaire, mais qu'au moins ils puissent aller à l'école.
On est toujours avec Philippe Vanesson du blog Passeur d'Hospitalité. La dernière fois qu'on vous a contacté par téléphone, c'était pour annoncer une manifestation de soutien aux exilés, manifestation bienvenue à Calais, c'était fin janvier. Ce week-end-là, il y avait eu aussi une autre manifestation, me semble-t-il, avec les habitants de Calais. Et puis depuis, il y a aussi eu encore une manifestation, cette fois-ci avec des personnes d'extrême droite, hein, notamment le groupe Pegida. Alors, un mot sur chacune de ces manifestations, peut-être d'abord sur la manifestation des Calaisiens, enfin, étiquetée comme ça, qui a fait aussi la une de la Voix du Nord. Comment vous voyez cette manifestation, vous ?
Alors, au départ, c'était une manifestation qui s'annonçait comme relativement modéré dans son approche, c'est-à-dire que dans les messages qui ont circulé au départ, il y avait quand même l'idée que... c'était d'une part une manifestation pour Calais, et où la question des exilés était aussi posée en termes de... on fait un camp de réfugiés, on a des conditions dignes, et au moins l'image de Calais ne sera plus entachée par misère, violation des droits, etc. Il y a eu une relecture après qui est aussi liée au déroulement de la manifestation et au fait que la maire de Calais, finalement, a pris la vedette lors de la manif et où elle est finalement présentée comme la manifestation anti-migrant et celle des Calaisiens le lendemain de la manifestation pro-migrant où on a à la fois des exilés, on a des gens qui viennent de Paris, etc., un peu les gens extérieurs, quoi, sur une espèce d'opposition qui correspond aussi à la rhétorique de la maire de Calais qui rafle la vedette en disant « voilà, les Calaisiens sont derrière moi pour demander que », etc., etc. Donc c'est un peu une relecture a posteriori qu'il y a eu par rapport à des mots d'ordre initiaux qui étaient beaucoup plus ouverts. Et c'est un peu l'un des soucis qu'on a actuellement, c'est que des paroles un peu modérées, de bon sens, sur le fait qu'il faut en finir avec cette situation dont on ne se sort pas et dont la ville pâtit en termes d'image et en termes de réalité quotidienne, Et c'est pas vraiment les migrants le problème, mais c'est beaucoup plus leur situation et puis l'impact que ça peut avoir, notamment dans les médias. Cette parole plus modérée, elle n'arrive pas à émerger. C'est-à-dire, on a une relecture à chaque fois, a posteriori, en termes de pro et d'anti, bah, qui verrouille un peu plus ce débat.
Un mot aussi hein, sur, bon, là, quand même, une manif anti-migrant avec le groupe Pegida.
Oui, effectivement, on se retrouve aussi dans une situation où Calais est dans l'agenda des groupes d'extrême droite. Alors, l'extrême droite électorale avec Marine Le Pen qui était venue faire un meeting à Calais, mais des groupes beaucoup plus radicaux et beaucoup plus violents qui à la fois viennent à Calais. Enfin, je pense que c'est en partie l'une des causes des agressions qui ont pu avoir. On a d'un côté sur les réseaux sociaux des groupes de Lyon, de Normandie, de Bretagne qui annoncent leur venue avec des termes du style « on va nettoyer Calais » et autres. Et puis de l'autre côté, on voit effectivement les agressions qui se multiplient sans que le lien soit prouvé entre les deux. Mais comme on a arrêté des gens, je pense qu'il y a une enquête qui permettra de clarifier un peu ce genre de choses. Et on le voit aussi ailleurs en France, c'est-à-dire ces fameux centres de répit où on envoie des gens de Calais un peu partout. Ben, il y a un certain nombre de lieux où il y a eu des manifestations d'extrême droite. Donc ces groupes se mobilisent aussi dès que Calais apparaît ailleurs qu'à Calais. Et maintenant, la ville est devenue aussi un symbole dans l'agenda des groupes d'extrême droite les plus radicaux. Donc c'est la deuxième fois que Pegida vient manifester en parlant de l'invasion de l'Europe et du génocide de la race blanche, etc. Enfin, toute la théorie du grand remplacement, voilà, ils vont nous envahir et ils vont nous faire disparaître. C'est un peu dans ce cadre-là qu'a eu lieu cette manifestation.
Puisqu'on a parlé de violence, un mot aussi sur les plaintes hein, des exilés, puisque avec le Centre d'information de droit, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, il y a eu plusieurs plaintes pour violence déposées.
Ouais, alors des plaintes par rapport aux violences policières et des plaintes par rapport à des violences qu'a priori on peut penser venir de l'extrême droite, en tout cas de violence de la part de civils, sachant que les deux sont traités de manière différente. C'est-à-dire que pour les policiers, c'est l'inspection générale de la police nationale qui a été saisie, c'est-à-dire on a une enquête interne de la part d'une institution qui jusqu'à présent n'a pas été très productive à chaque fois qu'il y a eu des faits délictueux, y compris avec des vidéos à la pluie qui sont venues, enfin qui ont été saisies sur des cas de violence policière. Et puis c'est la brigade criminelle qui enquête sur les faits de violence de la part de personnes autres que des policiers, quoi. Donc deux traitements et une manière de considérer le problème qui fait penser qu'il y a peut-être une enquête qui sera efficace par rapport à des violences sans doute d'extrême droite et qu'il y a une enquête qui a beaucoup de chances de ne pas aboutir, qui est interne à la police et qui concerne les policiers. So the question we need to answer
is, are our borders clean? Philippe Vanesson du blog Passeur d'Hospitalité au pluriel, un site d'information qui donne un point de vue de l'intérieur sur la situation des migrants à Calais dans les différents camps de la région. Je vous conseille chaudement la lecture de ce blog super documenté. C'est vraiment un travail formidable effectué par les animateurs de ce blog. Sachez qu'à Arras, si vous voulez vous impliquer auprès des migrants, il y a depuis septembre 2015 une association Arras Solidarité Réfugiés. Pour les contacter, sachez qu'ils sont présents sur les réseaux sociaux Arras Solidarité Réfugiés. La prochaine réunion physique aura lieu le jeudi 25 février à 19h30 à la maison Saint-Va, rue d'Amiens, Arras. Et puis je vous signale aussi cette date à noter sur vos calepins, le lundi 29 février au Cinémovida Arras, projection du film Hope de Boris Lochkin. C'est un film qui raconte la rencontre de deux migrants qui traversent le Sahara, Léonard qui fuit le Cameroun et Hope qui fuit le Nigeria, elle. Donc après la projection du film, il y aura un échange avec justement les personnes de l'association Arras Solidarité Réfugiés et puis aussi d'autres bénévoles associatifs et des témoins qui agissent sur les camps de Calais, Nord-en-Fonte, Angres ou encore Grande-Synthe. Donc rendez-vous lundi 29 février à 20h au Cinémovida à Arras.